Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le coin diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudrey. Il y a quelques événements informés entre autres. ASEAN reste un bloc important au niveau mondial. Président Joko Widodo inaugure le pont de l'île Balan en tant qu'infrastructure soutenant l'IKN. Gouvernement accélère les investissements étrangers après l'achèvement de la réglementation de l'IKN. Makassar Investment Forum, opportunité d'investissement japonaise en Indonésie. Ministère des Transports envisage de construire un port dans la zone industrielle de Batang. Ginting remporte sa première victoire en phase de groupe. Et Grégoria a battu sans problème les représentants de l'Ukraine lors du premier match de la phase de groupe. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. La présence des puissances mondiales à la 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, AMM, et à un certain nombre de réunions connexes au Laos montre clairement que l'ASEAN est toujours un bloc important au niveau international. C'est ce qu'a déclaré le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamed Hassan, cité par Antara dimanche 28 juillet. Selon Mohamed Hassan, la présence de partenaires de dialogue et de partenaires hors dialogue de l'ASEAN prouve l'importance de l'ASEAN dans l'élaboration du pays géopolitique mondial actuel. La 57e AMM a réuni tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN, à l'exception du Vietnam, représenté par le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, tandis que la Birmanie était représentée par la secrétaire permanente du ministère des Affaires étrangères, Aung Kyaw Moe. La réunion s'est également déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères, des partenaires du dialogue de l'ASEAN, notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy et le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et l'État politique de sécurité Joseph Borrell Fontel. Le président Joko Widodo a inauguré le pont de l'île Balan dans la région nord de Penajam Pasir, Kalimantan Oriental, dimanche 28 juillet. Le pont est l'une des infrastructures soutenant la capitale indonésienne de Nusantara, IKN, dans son discours d'inauguration. Le président Joko Widodo a déclaré que le pont avait été construit depuis 2015 avec un budget de 1,43 billion de roupies. Avant d'inaugurer le pont de l'île Balan, le président a également inspecté la construction de la route à péage IKN sur la section 3A-5A de l'autoroute d'accès IKN. Dans la ville de Balikpapan, après l'inauguration au pont de l'île Balan, le président et son entourage ont poursuivi leur voyage vers IKN. Le président Joko Widodo, la première dame Iriana Joko Widodo et leur entourage ont passé la nuit à IKN. Au cours de cette visite, le président Joko Widodo a invité les activistes artistiques et influenceurs indonésiens à voir ensemble les progrès du développement de l'IKN. Le président Joko Widodo a déclaré que la réglementation relative aux investissements étrangers dans l'autorité de la capitale d'État IKN, OIKN, avait été achevée afin qu'il puisse accélérer l'attraction des investisseurs étrangers vers l'IKN. Cité par Antara dimanche 28 juillet, le président Joko Widodo a révélé qu'il existe actuellement 300 lettres d'intention LOI ou lettres d'intérêt d'investisseurs étrangers pour le développement de la capitale d'État Nusantara IKN. Le gouvernement invitera plus tard les investisseurs étrangers intéressés à voir les progrès du développement d'IKN. Le président a déclaré que la réglementation visant à inciter les investisseurs potentiels sous la forme de droit d'utilisation des terres, HGU, jusqu'à 190 ans dans la capitale indonésienne IKN, vise à attirer autant d'investissements que possible, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Japon, Heri Ahmadi, a confirmé que la tenue du Makassar Investment Forum MIF 2024 pourrait être un pont pour des rencontres entre les acteurs économiques nationaux et les investisseurs étrangers, y compris le Japon. Cité par Antara dimanche 28 juillet, Heri Ahmadi a déclaré que la réunion avait également le potentiel de produire une coopération en matière d'investissement entre les investisseurs étrangers et les acteurs régionaux. À cette occasion, Heri a de nouveau souligné à la délégation japonaise qu'elle pourrait profiter au MIF 2024 pour explorer les investissements dans les domaines des infrastructures, des transports, de la pêche, des MPME, de la logistique et de l'énergie dans la région de l'Est de l'Indonésie, en particulier dans la ville de Makassar. Auparavant, l'ambassadeur Heri avait assisté à l'ouverture du festival F8 Makassar au Losari Beach Pavilion Makassar. F8 signifie mode, gastronomie, écrivain et police de fiction, beaux-arts, folk, musique fusion, flore et faune et cinéma. Le F8 Makassar a réuni des délégués de divers pays tels que le Japon, l'Australie, l'Italie, les Pays-Bas, l'Angleterre, les États-Unis, Singapour, la Malaisie et les Philippines. Le ministère des Transports prévoit de construire un port dans la zone industrielle intégrée de Batang, KITB, dans la région de Batang, dans le centre de Java, en 2025. Cité par rri.co.id dimanche 28 juillet, ministre des Transports Boudikaria Soumadi a déclaré que la construction du port vise à soutenir les activités industrielles du KITB afin qu'il devienne une zone industrielle intégrée. Il a également déclaré que son parti avait collaboré avec Pelabuhan Indonesia SA Pelindo pour lancer la phase de préparation. Actuellement, 18 entreprises ont rejoint le KITB qui a été inauguré par le président Joko Widodo vendredi 26 juillet. Selon Boudicaria, l'existence du port devrait permettre aux investisseurs existants de distribuer plus facilement leurs produits. Il espère que cela attirera de nouveaux investisseurs. Ensemble, messieurs indonésiens Anthony Sinisuka Ginting s'est montré supérieur et a remporté le premier match de la phase de groupe des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s'est déroulé à l'arène de la Porte de la Chapelle en France dimanche 28 juillet. Ginting a battu le représentant des États-Unis Howard Hsu lors de deux matchs consécutifs 21-14 21-8 en 34 minutes. Avec cette victoire, Ginting est en tête du classement du groupe H et l'opportunité de se qualifier pour le tour principal des Jeux Olympiques de Paris 2024 est de plus en plus ouverte. Il se préparera également à rencontrer le représentant hôte Thomas Junior Popov lors du prochain match de la phase de groupe. En revanche, trois autres représentants indonésiens concurrent au deuxième jour des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le badminton. Pendant ce temps, en simple dames, Grégoria Mariska Tunjung affrontera la représentante ukrainienne Polina Buhrova. L'Indonésienne de badminton simple féminin Grégoria Mariska Tunjung s'est facilement imposée contre la représentante ukrainienne Polina Buhrova lors du premier match de la phase de groupe des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'arène de la Porte de la Chapelle en France dimanche. C'était par entra dimanche soir, Grégoria a battu Buhrova lors de deux matchs consécutifs sur le score de 21-10, 21-15 en 30 minutes. La victoire de Grégoria lui a permis de prendre la tête du groupe G, qui comprend également le simple féminin tchèque Teresa Svabikova. En revanche, trois autres représentants indonésiens concurrent au deuxième jour des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le badminton. Auparavant, un simple masculin indonésien, Anthony Sinisuka Ginting, avait battu le représentant des États-Unis, Howard Hsu, 21-14, 21-8. Bon, c'est tout, le journal.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Voir les opportunités d'encourager la paix mondiale à travers les Jeux olympiques de Paris ». Les Jeux olympiques de Paris se sont officiellement ouverts vendredi 26 juillet 2024 heure locale. L'événement d'ouverture s'est déroulé de manière ambitieuse avec près de 7000 participants défilant dans 85 bateaux le long de la Seine sur 5,6 km ou 3,5 milles devant les monuments historiques dans la capitale française. Pour la première fois dans l'histoire olympique, la cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'extérieur du stade principal avec environ 300 000 personnes qui regardaient en direct depuis des tribunes spécialement construites sur les rives du fleuve. Pendant ce temps, des 100 000 autres personnes regardaient depuis les balcons et les appartements qui surplombaient la Seine. Les affiches olympiques et paralympiques de cette année constitueront une œuvre continue présentant les symboles du pays hôte et illustrant le thème de la compétition signifiant « Ouvrons les jeux ». Ce thème signifie que l'objectif est de présenter une compétition plus responsable, inclusive, égalitaire et spectaculaire. Les Jeux olympiques de 2024 présentent également une mascotte unique et significative. Le bonnet phrygien anthropomorphisé a été choisi comme mascotte pour représenter l'esprit français de liberté et d'indépendance. Le bonnet phrygien est une coiffe emblématique portée par la figure allégorique française Marianne, symbolisant la liberté. Cette mascotte encourage non seulement les sportifs, mais devient également un symbole reflétant l'identité et les valeurs françaises. Les Jeux olympiques de Paris ont réuni des participants de 206 pays, participant à 329 matchs dans 45 sports. Avec le deuxième plus grand nombre de médailles de l'histoire olympique. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ne concernent pas seulement les Jeux, mais aussi l'unité, la diversité et la célébration de l'esprit humain dans la poursuite des rêves et la réalisation des réalisations. Même s'ils étaient programmés, les Jeux olympiques de Paris se déroulent cette fois dans un contexte mondial défavorable. La guerre inachevée entre l'Ukraine et la Russie et le conflit entre le Hamas et Israël sont deux exemples les plus mis en avant par les citoyens du monde d'aujourd'hui. Il y a un grand espoir que la tenue des Jeux olympiques de Paris, même si elle ne touche pas directement à la résolution de la guerre, puisse diffuser un message de paix et d'unité au sein de la communauté mondiale. Car dans une compétition, outre l'enthousiasme de gagner, les athlètes en compétition sont tenus de faire preuve d'esprit sportif qui est la valeur essentielle de la compétition. Cet esprit sportif doit être transmis à l'ensemble de la communauté mondiale, non seulement lors des compétitions sportives, mais également à la table des négociations et lors des réunions internationales de haut niveau. Toutes les parties au conflit devraient imiter l'esprit sportif manifesté par les athlètes participant aux Jeux olympiques de Paris. On espère que l'esprit sportif des athlètes olympiques de Paris pourra être une source d'inspiration pour créer la paix mondiale et résoudre des conflits sans fin. C'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui avec Maudrey. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec le 29 juillet 1947, la première attaque aérienne de l'armée de l'air indonésienne contre le quartier général néerlandais. Chargé tard le 29 juillet 1947, six élèves pilotes indonésiens nommés Mulyono, Dul Rahman, Sutarjo Sigit, Sutarjo, Suharmoko Harbani et Kaput lancèrent une attaque aérienne contre les quartiers généraux militaires néerlandais à Semarang, Salatiga et Ambarawa. C'était en réponse à l'attaque de l'armée de l'air indonésienne, AURI, après l'agression militaire néerlandaise du 21 juillet 1947. Le même jour, un P-4 Kitty Hawk néerlandais a contre-attaqué, attaquant un avion Dakota VT-CLA transportant des dons médicaux de la Croix-Rouge malaise à la Croix-Rouge indonésienne. L'attaque a fait une embardée et s'est écrasée dans le village de Ngoto, 3 km au sud de Yogyakarta. Parmi les victimes décédées figurait le jeune commodore de l'air Adi Sucipto, le jeune commodore de l'air Abdurrahman Saleh et le jeune officier de l'air Adi Sumarmo. Ces deux événements sont devenus la base pour déterminer le 29 juillet comme jour de service pour l'armée de l'air de l'armée nationale indonésienne. Chers passons maintenant au 29 juillet 1958, fondation de l'administration aéronautique et spatiale des États-Unis, NASA. Chers le 29 juillet 1958, le président des États-Unis, Dwight David Eisenhower, a adopté le National Aeronautic and Space Act. Cette ratification a marqué la fondation de l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace NASA. Depuis sa création, la majeure partie de l'exploration spatiale américaine a été menée par la NASA, y compris la mission d'alunissage Apollo. La station spatiale menée par la NASA, y compris la mission d'alunissage Apollo. La station spatiale Skylab et la navette spatiale. La NASA a été fondée dans le but de donner la priorité aux besoins de la société civile par rapport à ceux de la NASA, l'armée, et s'est utilisée comme programme de paix dans les sciences spatiales. La science de la NASA se concentre sur une meilleure compréhension de la Terre, l'avancement de l'héliophysique, l'exploration de l'ensemble du système solaire avec des missions spatiales sans pilote et la recherche sur des sujets astrophysiques. L'agence est officiellement devenue opérationnelle le 1er octobre 1958. Chers amis, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec le 29 juillet 1947. L'ENIAC, le premier ordinateur numérique entièrement électronique au monde, a été mis en service. Chers auditeurs, ENIAC, abréviation de Electronic Numerical Integrator and Computer, fut le premier ordinateur entièrement électronique conçu pour être Turing complète, capable d'être programmé en réorganisant ses câbles afin de résoudre toutes sortes de problèmes de calcul. ENIAC a été développé et construit par l'armée américaine pour son Nordnance Research Laboratory dans le but de calculer les tables de tir des armes. ENIAC a été conçu par J. Presper Acker et John William McCley de l'Université de Pennsylvanie, États-Unis. La construction de l'ordinateur a commencé le 17 mai 1943 sous le nom de projet PX et a été construite à la Moore School of Electrical Engineering depuis le milieu de 1944, après avoir été exploité officiellement le 19 juillet 1947, ENIAC fut de nouveau exploité en continu jusqu'à 23h45, le 2 octobre 1955. Bon, chers, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui. Thank you.
aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu. Sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa. Ini aku yang tak menyerah, meski tak mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Sejam lantin pour le bic suivant, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie va introduire un family office pour les entreprises sociales ». Le ministère de la Loi et des droits de l'homme a annoncé que l'Indonésie mettra en œuvre un programme d'investissement de family office ou de gestion de fonds familiaux adapté à l'entrepreneuriat social ou à l'entreprise sociale. Cahyo Muzar, directeur général de l'administration juridique générale du ministère de la Loi et des droits de l'homme, a déclaré que la création de family office en Indonésie sera mise en œuvre en octobre 2024, conformément au plan de la Direction générale de l'administration juridique générale pour créer des entreprises sociales. Cahyo Muzar, cité par l'agence de presse Antara, vendredi 26 juillet, a déclaré dans une déclaration écrite que l'entreprise sociale est considérée comme étant convenablement développée en Indonésie, notamment en adoptant ce que les Émirats arabes unis ont mis en œuvre. Cahyo Muzar expliquait qu'aux Émirats arabes unis, il existe des philanthropes très riches du monde entier qui souhaitent placer leurs fonds dans des entreprises sociales pour des affaires sociales et d'autres activités à but non lucratif. Cahyo a déclaré que lorsqu'il avait accompagné le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut, aux Émirats arabes unis, pour une réunion avec les autorités compétentes il y a quelque temps, le projet de création d'un family office en Indonésie avait été discuté. La gestion des fonds familiaux peut se faire en créant un paysage d'écosystème commercial international complet, intégré et facilitant l'enrichissement, y compris une infrastructure juridique et une infrastructure institutionnelle. Après la visite, les délégués indonésiens ont également vu l'application du système de droit coutumier au système de common law dans un écosystème d'enrichissement, ce qui peut être réalisé en imitant le système mis en œuvre par les Émirats arabes unis. Cahaya Muzak a déclaré que le common law dans cette affaire prend la forme de l'adoption et de la modification des réglementations sur les entités commerciales, la fiscalité, les services financiers et l'immigration en fonction du contexte local et des intérêts indonésiens. Le gouvernement indonésien, sous la direction du président Joko Widodo, envisage de créer un family office dans le pays. Un family office est une institution ou une entreprise qui gère et soigne les finances de familles fortunées. L'objectif principal d'un family office est de fournir des services financiers et d'investissement centralisés adaptés aux besoins et objectifs financiers à long terme. Le gouvernement estime que les family office attireront des riches investisseurs qui placeront leur argent en Indonésie. C'est Jitter, c'est mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Seperti luka.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ses rites, la Papouasie occidentale n'est pas seulement Raja Ampat. Il existe de nombreuses destinations touristiques impressionnantes de la pointe ouest de la Papouasie. La province, qui est une capitale à Manokwari, possède un certain nombre d'attractions touristiques. L'un d'eux est le Lac Fakamu, un paradis caché en Papouasie. Peu de gens connaissent l'existence de ce lac, car l'emplacement de ce lac est au milieu d'une forêt. Sejuritor, le Lac Fakamu fait partie du lac Ayamaru qui est situé dans la ville d'Ayamaru, dans la région de Maibrat, dans la province de Papouasie-Occidentale, à environ 216 km à l'ouest de la ville de Sorong. Depuis la rue principale menant au Lac Fakamu, il faut marcher environ 10 à 15 minutes à travers une petite forêt de Papouasie-Occidentale dominée par des buissons. Parmi les arbres luxuriants se trouve le lac qui est dominé par la turquoise. Ce magnifique lac est si propre car la Papouasie indigène, c'est-à-dire les résidents locaux, en prennent soin. Parce qu'il offre des avantages, la population locale s'occupe de ce lac. Même s'il est très beau, il faut faire attention si l'on veut nager dans ce lac. L'eau est calme, signe que ce lac est assez profond. La profondeur de ce lac pour atteindre 6 mètres. Cependant, vous pouvez nager sur la rive du lac ou simplement jeter les pieds et marcher sur les rochers clairement visibles depuis le bord du lac. Ces rites de Sorong au Lac Fakamu peut être atteint en utilisant les transports en commun pendant 4 à 5 heures. La route vers le Lac Fakamu est assez difficile car tous les itinéraires ne sont pas des routes pavées lisses. La plupart des routes sont de petites routes caoutchouteuses et rocheuses. La route principale au Lac Fakamu nécessite une promenade d'environ 10 à 15 minutes en descendant une petite forêt de Papouasie-Occidentale qui est envahie d'arbres. Parmi les arbres luxuriants se trouve le lac qui est dominé par turquoise. Par conséquent, le Lac Fakamu n'est pas souvent visité par les touristes. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
menyatukan rasa.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs,
vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens. Et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bau Bau. Di Bau Bau. En français, à Bau Bau. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Berjam-jam. Je répète, Berjam-jam signifie plusieurs heures. C'est une conversation entre Chris, un vlogueur australien, et un passager à l'aéroport de Beto Ambari. Ils vont aller à Bali via Makassar. Chris a dit au passager qu'il attendait l'arrivée de l'avion depuis plusieurs heures. Écoutons le dialogue.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Berjam-jam. Berjam-jam, en français, depuis plusieurs heures. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Saya. Saya signifie je. Menunggu. Menunggu signifie attendre. Berjam-jam. berjam-jam, signifie plusieurs heures. Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam, signifie j'attends depuis plusieurs heures. Petugas. Petugas en français l'officier. Terlambat. Terlambat signifie en retard. Cuaca buruk. Cuaca buruk signifie mauvais temps. Menunggu lama. Menunggu lama signifie longue attente. Semoga. Semoga signifie j'espère. Segera membaik. Segera membaik signifie améliore bientôt. Pesawat. Pesawat en français avion. Tiba. Tiba signifie arriver. Tujuan. Tujuan signifie objectif. Makassar. Makassar signifie la ville de Makassar. Dans la conversation, vous entendez saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam signifie j'attends depuis plusieurs heures. Le mot berjam-jam, berjam-jam signifie plusieurs heures, vient du nom jam. Je répète, jam signifie heure, signifie en temps égal à 60 minutes ou une heure. Dans cette phrase, le mot berjam-jam, je répète, berjam-jam signifie plusieurs heures, est utilisé pour répondre à une question sur la longue attente de l'arrivée de l'avion. Écoutons des exemples d'utilisation d'autres mots numériques pour décrire la durée. Berhari-hari. Berhari-hari signifie plusieurs jours. Dari Jakarta ke kota Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Dari Jakarta ke Bau-Bau, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. Signifie de Jakarta à Bau-Bau, il faut plusieurs jours aux passagers du ferry. Berminggu-minggu. Berminggu-minggu signifie plusieurs semaines. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu. Paket kris belum sampai selama berminggu-minggu signifie le colis de crise n'est pas arrivé depuis plusieurs semaines. L'aéroport de Beto Ambari se trouve à Bau-Bau, la province de Sulawesi du Sud-Est. Cet aéroport a été construit en 1976 comme aéroport pionnier. Actuellement, l'aéroport de Beto Ambari est l'un des points d'accès qui relie la destination touristique des îles Wakatobi à la capitale de la province de Sulawesi du Sud, à savoir la ville de Makassar. Avant de terminer, parlons indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
Chers amis, voilà l'émission Parlons Indonésien d'aujourd'hui dont le sujet est berjam-jam, berjam-jam signifie plusieurs heures. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson keroncong intitulée Nuansa Bening, chantée par Afifa. Ce jour tard, la chanson chantée par Ahmad Dhani était auparavant le premier single de Vidi Aldiano, sorte le 24 décembre 2008. En fait, Nuansa Bening n'est pas la chanson originale de Vidi Aldiano. Il a chanté une feuille chanson composée et popularisée par Kinan Nasution and his gang. Cette chanson décrit des sentiments d'amour qui grandissent progressivement envers quelqu'un qui semble au premier abord ordinaire. Lors de notre première rencontre, il n'y a eu aucun sentiment particulier. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe et que vous apprenez à le connaître plus profondément, vous commencez à découvrir des choses qui sont spéciales chez cette personne. Pour ce détail, voici une chanson crunchon intitulée Nuansa Bening, chantée par Afifa. Bonne écoute!
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.